bonjour pour ce 26e numéro de Confinez-vous à nous. Nous avons joint par téléphone mercredi dernier Soigny, cofondatrice et directrice de la société Grain de Raison.
Grain de Raison est une société qui s'est créée il y a déjà 6 ans, bientôt, qui a pour but de faciliter les échanges commerciaux entre professionnels, producteurs ou acheteurs de vins naturels et en biodynamie. Donc on se dit facilitateur d'échange parce qu'on permet de réunir ces personnes pour qu'elles soient vues et qu'elles puissent vendre ou acheter facilement en direct fournisseurs ou revendeurs, quoi. Voilà, donc on a un système principalement basé sur la logistique et puis également beaucoup de démarches type événementiel et informatif pour sensibiliser du coup les professionnels, hein, parce que c'est vraiment une entreprise en B2B, à ce que sont les vins vivants, les vins biodynamiques, les vins naturels. Voilà, et on exerce sur Nantes.
B2B.
C'est d'une entreprise à une entreprise, c'est pas en fait ouvert aux particuliers. Donc d'un côté il y a les vignerons, producteurs, artisans qui font tout de A à Z, hein, de leur production jusqu'à la vente. Et de l'autre côté, il y a des acheteurs qui sont des petites entreprises indépendantes de la région qui nous entoure, puisque les vignerons viennent d'un peu partout en France. L'idée pour nous était, vu qu'on était situé sur Nantes, de permettre de créer un portail, en fait, d'ouvrir la région donc Nantaise 44 et tous les départements limitrophes, donc une bonne partie du Grand Ouest notamment, accéder aux vins en biodynamie, vins naturels, de manière beaucoup plus aisée que ce qui pouvait se faire autrement, quoi.
Les professionnels ciblés, ce sont les restaurateurs, les cavistes, les cafés, les bars.
Oui, il y a tout professionnel qui fait de la, voilà, qui fait de la revente, donc des indépendants la plupart du temps, parce que l'idée là, c'était d'aider des personnes qui sont relativement engagées, puis de toute façon, les professionnels qui vont aller vers les vins en biodynamie et vins naturels, donc on parle des acheteurs pour le coup, la plupart du temps, ce sont déjà des gens qui ont une proposition, une offre de vente au particulier qui est déjà très spécifique, assez pointue, qui va aller rechercher ou du local, ou du produit très frais, ou des produits qui sont faits en bio, ou qui ont vraiment une éthique. On arrive en fait, grâce à notre système, à réunir des petits d'un côté comme de l'autre, finalement. On leur permet de s'en grouper pour acheter en commun, ce qui permet bien des économies de temps, d'argent évidemment, de logistique, ce qui leur donne les moyens de continuer à travailler la qualité et à la placer aux bons endroits. Voilà.
Et vous avancez petit à petit.
Exactement. C'est un travail, en effet, qui demande de la patience et beaucoup d'accompagnement individuel et de la passion. Mais après, ça va un peu de pair quand on travaille avec des gens qui sont passionnés. Ça se marie bien, ça se fait bien.
Vous parliez en termes d'événementiel, donc les événementiels sont les salons.
Oui, alors en fait, on participe avec une association que l'on a montée également d'ailleurs, qui est devenue indépendante pour autant, qui s'appelle la Compagnie des Grains. Donc on organise un grand salon tous les ans depuis 5 ans. Ça aurait été la 5e édition cette année, puisque c'était fin mars qu'il était prévu. Donc c'est le salon des vins vivants qui se passe au Solilab. Donc ça, c'est le plus gros événement ouvert aux particuliers, enfin tout public finalement, mais du coup qui permet pour une fois de parler des vins en biodynamie et naturel avec tout ce côté ludique et pédagogique et sensibilisant, un bel et grand événement sur lequel on se fait se déplacer quand même plus de 30 vignerons qui viennent de partout de la France. Et du coup, c'est une très très belle occasion en effet de rencontre, d'expérimentation pour le visiteur en fait, qui vient tester, qui vient découvrir ou qui vient potentiellement acheter. Et pour le coup, il achète directement au vigneron. Ça, c'est le grand événement phare de l'année qui nous demande le plus d'énergie. Mais après, dans l'entreprise, on fait beaucoup d'accompagnement individuel auprès des professionnels qui le souhaitent. Ça peut être une dégustation animée, ça dépend vraiment du professionnel, si c'est un restaurateur, un caviste, un bar à vin. Voilà, on propose beaucoup de petites choses assez ludiques. On peut réussir à faire des accords mets vins, des soirées à thème, et puis travailler également avec, proposer des soirées mixtes. C'est-à-dire, on va avoir peut-être un intervenant autre qui était prévu ou pas dans l'endroit. Je pense par exemple à certains cafés, restaurants qui des fois font venir des acteurs, des musiciens. Et puis on peut s'adapter, essayer de faire quelque chose d'assez ludique avec la personne. Donc une dégustation au début, par exemple, de concert, une dégustation au milieu, une dégustation à la fin. Donc, ça permet de créer vraiment quelque chose de sympathique et surtout de de tester vraiment les vins en fonction d'une clientèle dans un lieu et en fonction d'une ambiance amenée. Voilà, ça permet aussi d'accompagner, de réconforter un petit peu le professionnel qui essaye, qui n'est pas sûr, qui veut faire quelque chose de spécifique pour l'occasion. Et ça marche assez bien. Voilà. Et on s'amuse bien d'ailleurs à faire ça.
Vous avez aussi une cave, vous stockez?
Le principe de base est de mettre en visibilité, à disponibilité des regards des professionnels de notre région, des professionnels acheteurs-revendeurs, un certain nombre de vins venus de plusieurs régions françaises, donc de vignerons. Et à partir de là, ils vont pouvoir faire des commandes sur plusieurs vignerons et on va rassembler les commandes par vigneron, de manière à ce que le vin n'arrive qu'une fois qu'on a réussi à constituer une palette, ça, l'équivalent de 600 bouteilles. Et à partir de ce moment-là, la palette part de chez le vigneron. On fonctionne un peu comme le principe d'une AMAP, hein. Elle arrive chez nous, une fois que c'est arrivé, on reconditionne de manière à ce que chacun puisse récupérer sa commande. Donc, il va prendre 18 cartons d'un vigneron du sud, 12 cartons d'un vigneron du sud-ouest, puis on va rassembler les différentes commandes. Et les professionnels ensuite viennent retirer leurs marchandises chez nous. Et puis, on se déplace pour ceux qui sont le plus loin. Voilà. Donc, l'idée, en effet, c'est d'avoir un local, mais c'est un local de transit de marchandises et non pas de stockage à proprement dit. Donc, la marchandise n'est pas faite pour y rester longtemps. Du coup, il n'est pas particulièrement grand et ce n'est pas un lieu dans lequel peuvent dormir trop longtemps les vins non plus. C'est pas du tout l'idée. C'est voilà, un lieu de transit.
C'est comparable au centre de Gros.
En beaucoup plus petit, c'est ça, un petit peu, c'est ce fonctionnement-là. En effet, si on doit mettre une image, c'est ça.
Et là, avec la Covid-19, vous êtes mis au régime.
Ah bah totalement, hein. Comme tout le monde et tous nos partenaires avec qui on travaille, restaurateurs, cavistes, bars à vin. Alors les cavistes, pour la plupart, sont encore ouverts, mais ils tournent vraiment à très 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 bas régime, même si les gens ne s'arrêtent pas pour autant de vouloir se faire plaisir et passer à quelques commandes. Mais dans l'ensemble, on est tous totalement au ralenti. D'ailleurs, les cavistes sont les seuls partenaires avec qui on travaille qui sont ouverts, mais tout ce qui est restaurateur, bar à vin, etc., sont totalement fermés. Donc, pour le coup, c'est une énorme partie de notre activité qui s'arrête également. Donc, ça fonctionne au ralenti à mesure que nos partenaires cavistes ont besoin, mais ça reste très minimum, quoi.
En termes de pourcentage, ça réduit conséquemment votre activité et votre chiffre d'affaires?
C'est pas évident à calculer, mais je pense qu'on est à 10% d'activité, quelque chose comme ça, par rapport au fonctionnement habituel. Après, bon, c'est pas évident à calculer du tout, mais ça doit représenter quelque chose comme ça, ouais. Bon, après, on a beaucoup de temps pour faire notre paperasse, hein. On va peut-être réussir au moins à avancer ça, ce qu'on n'a jamais le temps de faire. Mais bon, oui, c'est vrai que c'est très peu.
Il y a du temps à consacrer pour régler les dossiers administratifs.
Oui, d'habitude, c'est un petit peu l'inverse. On a à peine le temps de le faire. Il faut organiser des vraies journées, s'y mettre. On court tous après le temps. La plupart du temps, justement, en dehors de cette période-là, c'est l'impératif. Là, c'est le moment, en fait, de ranger sa vie un peu, son entreprise. C'est parfait.
Vous êtes deux salariés?
On est deux, oui, dans l'entreprise. Tout à fait.
Et vous bénéficiez d'aides particulières?
On a à peine commencé à se renseigner, on attend de voir ce qui se propose exactement. On va suivre un petit peu les choses au fur et à mesure, là. On a notre comptable quand même qui est là pour nous accompagner. Donc on va détailler tout ça avec elle. Elle nous a fait quelques retours pour l'instant déjà qui pourraient être intéressants, mais on n'a pas encore vu tout ça en détail. Voilà.
Ça ne vous inquiète pas trop pour l'instant?
Eh bien, on sait qu'il y a des aides et que ça serait vraiment important d'essayer de maintenir l'entreprise. Donc, si ça passe par des aides, en effet, ça serait essentiel, clairement. En revanche, d'après ce que j'ai compris, ça reste très symbolique. Donc, ça permettra de payer les loyers. Après, est-ce que ça va permettre à l'activité de rebondir réellement quand les choses seront faites? Pour l'instant, ça reste une question, quoi. On reste optimiste, hein. C'est important d'avoir l'esprit clair et détachée de toutes ces circonstances potentiellement malheureuses pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir trouver de manière de rebondir, etc. Mais en attendant, on reste dans le point d'interrogation. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va voilà, qui va s'amener à un moment donné à nous, clairement. On saura là, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas faire, ce que ça implique ou pas, comme facilité ou comme difficulté. Et puis on verra à ce moment.
Pensez-vous qu'une petite entreprise soit plus exposée actuellement qu'une grande?
Oui, de manière très 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 logique, hein, par proportionnalité, tout simplement. Je pense que ça dépend en fait. Ça dépend vraiment du secteur d'activité, de plein de choses. Mais oui, les petites entreprises ont potentiellement des petits moyens également pour se retourner. Des petites entreprises qui ont d'énormes moyens pour rebondir, c'est pas ce qui me paraît le plus fréquent. Donc évidemment que ça va faire beaucoup de mal à bien des petites entreprises, qu'elles vont sûrement mourir avant d'autres. En majeure partie des cas, j'entends, parce qu'après, il y a énormément de choses différentes, de particularités. Donc, je souhaite évidemment pas ça, qu'on puisse au contraire se serrer les coudes autant que possible. Mais bon, c'est compliqué. Hein. Nous, on vit beaucoup dans la relation sociale. Donc, quand les liens sociaux sont coupés, c'est plus compliqué de se serrer les coudes aussi. Hein. Donc, on va voir. Il faut être patient et puis faut essayer de voir ce qui est possible de faire. Là, le fait, par exemple, qu'il y ait des AMAP et des artisans producteurs qui s'organisent pour amener de la marchandise en centre-ville et fonctionner un peu comme les AMAP sur le principe, hein, de soit de la livraison, soit de créer des points de vente sur des espaces autorisés, ça me paraît essentiel. On a quand même fermé les marchés à Nantes, c'est pas neutre du tout. On a fermé les marchés, non pas les supermarchés, mais les marchés. Ça implique quoi? Que les maraîchers autour, par exemple, sont avec leur production, leurs légumes qui sortent de terre, qui sont prêts à manger, qui ne peuvent pas être fournis à personne, à moins d'être organisés. Et là, en effet, je pense que par bouche à oreille, par organisation, il peut se faire des choses très intéressantes et ça peut sauver des petits producteurs. Donc, je pense que c'est très, très important, en effet, de s'informer sur ça, de communiquer entre nous sur ces petits plans-là, ces adresses, ces gens qui réussissent, qui essayent de réussir à s'en sortir par certains biais, que ce soit la livraison, la vente en ligne et tout ça. Et je pense que c'est bien plus essentiel de sauver les petits producteurs des alentours plutôt que le supermarché du coin. Et de toute façon, on ne mourra jamais d'un seul coup. Bon, après, c'est mon point de vue, mais bon, ça me paraît être un équilibre économique fondamental, prenant en compte notamment la qualité ou la richesse de notre environnement le plus proche, quoi, de notre terroir, de tout ça. Donc voilà, faut acheter des petits producteurs, absolument, et tout faire pour les trouver, leur réclamer du fromage, du pain, des huîtres, n'importe quel produit qu'ils font habituellement et qui aujourd'hui qu'on ne voit plus sur les marchés parce que ils sont tous en train de chercher des solutions. Donc s'ils ont beaucoup de demandes, ne serait-ce que par téléphone, ils vont trouver des moyens pour y répondre. Ça va les encourager à en trouver. Et ça va permettre aussi à ces petites personnes-là de continuer à survivre un peu plus longtemps.
Des bananes chez les petits producteurs.
Les bananes, ah oui, voilà. Je ne sais pas si on a beaucoup de bananiers chez nous en ce moment, mais. Bon, en tout cas, il y a plein de bonnes choses à manger en ce moment. C'est quand même le printemps. Les étals sont magnifiques normalement. Ils sont remplis autant de fleurs que de racines, que de verdure et tout ça.
Votre entreprise a déjà subi une catastrophe lors d'une inondation.
Ah oui.
Vous avez su remonter la pente?
Oui, on a été très bien accompagnés par notre assurance qui était vraiment chouette. Parce qu'en plus, c'était en 2017 et on a été surpris parce qu'on n'était pas dans une zone inondable. C'est la tempête, en fait, qui a été tellement dense et soudaine. Bon, beaucoup de gens s'en souviennent sûrement, hein, mais qui a inondé les rues de Nantes et les caves et les égouts surtout qui ont débordé. C'est ça qui a fait l'inondation de la plupart des commerces. Oui, on avait été touchés, on avait été très, enfin, bien touchés, mais plus épargnés que d'autres. Enfin, on n'est pas totalement sous terre, hein, donc. Donc, voilà, on avait réussi à rebondir avec notre assurance qui nous avait bien aidé.
S'il y a des dispositifs adaptés, il n'y a aucune raison que vous ne disparaissiez.
Absolument, quand il y a des dispositifs adaptés, ça se fait, mais c'est toujours tendancieux parce que Les assurances, qui est un exemple parfait pour parler de ce côté un peu qui te double, c'est que, étonnamment, on était assuré pas pour les inondations, puisqu'on n'était pas en zone inondable. Il a fallu que la tempête passe en catastrophe naturelle pour qu'on puisse être indemnisé. C'est pour ça qu'il y a des pétitions qui tournent, qui ont été lancées par des commerçants qui réclament la catastrophe naturelle, en fait, le décret d'une catastrophe naturelle, parce que sans cela, les assureurs disent tous la même chose. Ils vous disent, écoutez, vous n'êtes pas assuré pour des pandémies, donc théoriquement, on ne peut rien faire. Et évidemment que ça n'a jamais été imaginé que ça puisse bloquer un pays entier, c'est quand même incroyable. Donc ça dépend vraiment de pas mal de choses. On va voir encore une fois, il faut suivre les actualités, bien évidemment, les mesures proposées. Mais en effet, il est sûr que sans mesures, les choses sont compliquées. S'il y en a, c'est parfait. Après, il faut qu'elles fonctionnent, bien évidemment, et qu'elles soient adaptées aux différents types de commerce ou différentes problématiques, quoi. C'est pas simple, quoi, tout ça.
Concrètement, en ce qui concerne le travail quotidien, vous l'assurez chez vous, vous vous déplacez dans vos bureaux.
Je travaille depuis chez moi, principalement, parce que j'ai ce qu'il faut chez mon ordinateur, hein. Après, tout ce qui est bureautique, informatique, hein, pas besoin de déplacement. Ensuite, quand il y a des commandes de vin, évidemment, là, pour le coup, il faut se déplacer. Donc, on alterne avec mon associé Jean-Marc, de manière à pas être deux en même temps. Et puis, on est avec gants, masques et tout ce qu'il faut. Et là, en effet, on va déposer la marchandise de manière à économiser aussi ce temps et le risque pour la personne qui a commandé. Donc voilà, principalement, je travaille de chez moi, en effet.
Comment ça se passe? Vous déposez les colis, les paquets, les palettes, les je ne sais pas quoi à distance?
Oui, en fait, en général, on a le véhicule qui est chargé. La personne nous ouvre la porte de son établissement, nous signale l'endroit de dépôt, et puis tout simplement, on dépose à cet endroit-là. Voilà. Donc, en effet, il n'y a pas de contact, il n'y a pas besoin de donner la main à la main. Ça reste des cartons de vin, donc c'est un certain poids. On les pose directement au bon endroit. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'être en proximité, quoi.
Le paiement se fait par virement.
Le paiement se fait par virement directement au vigneron, une fois que le vigneron a envoyé la facture à son client. On n'a pas du tout besoin, nous, d'encaisser quoi que ce soit. On est vraiment dans du dépôt de marchandises, pour le coup, à ce moment-là.
Comment vous vous rémunérez?
Comme tous les prestataires de services, on a un principe d'achat groupé, en fait. Donc, l'idée générale, c'est de faire économiser de l'argent à tout le monde et en même temps de développer un maximum d'image, créer du réseau. En fait, on s'appelle grain de raison, mais la vraie bonne formule, c'est le réseau grain de raison. Donc, c'est un réseau de professionnels qui achètent à plusieurs. Du coup, ça implique que si tout le monde économise, au bout d'une année complète, par exemple, d'achat par ce système, l'économie de chacun peut être reversée en partie aux prestataires qui leur permettent d'économiser sur le long terme. Donc, tout simplement, du service. Notre activité est en tout cas qualifiée en service.
Mais ce sont les vignerons
Ça marche des deux côtés, c'est-à-dire que toute personne qui utilise les services ou une partie des services participe. Alors, en effet, la majeure partie est quand même prise par les vignerons. Ensuite, les acheteurs revendeurs, qui eux également économisent en faisant de l'achat groupé, ont également une partie, voilà, qui permet de vivre, quoi. L'idée de base était de vraiment fonctionner un petit peu comme une petite plateforme tournante qui permette à chacun d'échanger par cette plateforme en y mettant sa marchandise ou l'argent pour la payer et que les gens restent assez autonomes autour, mais du coup qu'ils puissent rentrer assez aisément sur ce système, sur cette plateforme, en payant comme une cotisation, en fait, comme un petit peu, encore une fois, comme le système des AMAP, où on va adhérer à l'association pour pouvoir bénéficier des services qu'elle propose, des événements. C'est un soutien, en fait, plus qu'autre chose. Mais dans l'ensemble, ça s'équilibre bien, en fait, entre les différents partenaires.
La prestation de livraison est effectuée à titre gracieux.
Ah ben, actuellement, c'est gratuit. Hein. C'est même pas du tout calculé nulle part. Hein. C'est la période qui veut ça aussi. On a toujours dépanné, si besoin, les professionnels qui souhaitaient, qui avaient vraiment besoin d'être livrés. Mais l'idée générale est quand même que les gens viennent au dépôt récupérer leurs marchandises. Là, on ne les fait pas venir pour éviter qu'il y ait trop de circulation. Et donc, en effet, on va leur déposer le vin gratuitement, bien sûr.
Comment s'articule votre vie domestique avec votre vie professionnelle?
J'apprécie de travailler chez moi, puisque J'ai vraiment le confort de pouvoir y travailler, mais bon, je délègue quelques heures par jour à ce que je dois faire. Et là, je m'occupe que de ça. En fait, je m'enferme un petit peu dans ma tête et devant mon écran pour travailler sur ce qu'il faut. Et puis après, je reviens à ma vie. Voilà. Donc ça change pas énormément. Bon, ce qui est très compliqué quand même, c'est le fait de pas du tout bouger, c'est-à-dire aller au travail, ne serait-ce que le temps de route, ça fait beaucoup bien. Changer de cadre visuel pour travailler, être dans un univers vraiment différent, c'est quand même des choses qui sont très structurantes et qui créent comme des étapes, comment dire, symboliques dans l'esprit. Donc un cadre particulier, à chaque activité particulière est très très agréable à vivre. C'est toujours plus compliqué quand on change pas de mur ou d'horizon, mais bon, c'est avec.
Mais quand on est hyper dynamique, comment on trouve ce temps, le trouve long? Est-ce que vous vous ennuyez parfois? Est-ce que c'est pesant?
Finalement, pas tant que ça, parce que hyper dynamique, j'ai plein d'idées qui passent dans ma tête, souvent assez créative. Donc, je me lance des défis pour bricoler chez moi. Voilà, donc des fois, c'est les joints de carrelage de la salle de bain à refaire. C'est un vrai boulot, ça prend beaucoup d'énergie, ça permet de faire quelque chose. J'ai jamais fait ça, hein. J'ai découvert comment faire en me renseignant. Voilà, ça fait du bien aussi de faire de l'actif. Donc, moi, ça me plaît beaucoup, ça me défoule un peu. Voilà, puis si c'est pas ça, je trouve d'autres choses. Le rangement, par exemple, c'est quelque chose de formidable. On se rend pas compte des fois à quel point c'est formidable. Mais non, non, j'arrive à trouver assez d'activités inventives pour ne pas m'ennuyer.
Combien de bleus aux mains, de doigts pincés, est-ce que vous apprenez à bricoler?
J'en sens pas mal, hein. Non, non, ça va. J'ai pas de. Si j'ai un petit bleu sur le genou ou deux, mais non, non, ça va. Je suis assez contente de mes débuts en bricolage pour l'instant.
Mais dans votre appréciation du temps, les journées sont longues, courtes?
Les journées sont pas assez végétales, sont pas assez pleines de courants d'air. Après, est-ce que le temps est long? Oui, non, en soi, j'ai une bonne mesure du soleil qui défile. Donc, on a quand même des superbes journées ensoleillées. J'ai la chance d'avoir un petit coin de soleil à une fenêtre dont je peux profiter une bonne partie de la journée. Ça, c'est quand même formidable. J'ai de la peine pour tous les gens qui habitent au nord et qui n'ont pas du tout de lumière directe. Et qui n'ont pas de jardin. Mais non, le plus dur pour moi, c'est pas tant le temps, c'est la manière dont on peut le vivre ou pas. Donc, mon petit rayon de soleil est très très précieux là.
Qu'est-ce qui vous manque le plus?
Ben, ça va être ça, le jardin, le fait de pouvoir circuler. Oui, la nature, enfin, c'est tout bête, hein. J'aime beaucoup la nature. À défaut de pouvoir vraiment circuler, avoir du vert, pouvoir le toucher, pouvoir voir, c'est printemps, il y a plein de choses qui poussent, pouvoir voir la vie s'activer, ça serait super. Il n'y a pas grand-chose qui s'active en fait quand on regarde par la fenêtre, par quelques personnes qui se déplacent. Donc oui, j'imagine que ceux qui ont des jardins sont très bien. Ils peuvent circuler, ils peuvent prendre le temps d'observer les choses, de les vivre à la mesure de la nature. Ce qui serait assez formidable de faire si on avait tous ces moyens-là, de redécouvrir un petit peu toutes ces choses-là, quoi. Donc voilà. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont plus mal lotis, donc. Pas me plaindre non plus.
Vous ne compensez pas ce manque en puisant dans votre petit stock de vin naturel.
On a une réserve personnelle qui est totalement indépendante du stock, heureusement. Non, ben, enfin, c'est pas vraiment. Ça va m'arriver une fois d'y penser pour l'occasion d'un apéro Skype. Et donc voilà. Mais sinon, c'est vrai que ce sont des choses à partager, ces petits plaisirs-là. Donc oui, c'est possible, c'est bien évidemment plus facile pour moi, mais bon, bah, ça implique aussi une humeur, puis le partage, quand même très important. Les apéros Skype, pour le coup, sont une bonne excuse, mais j'en ai pas encore fait beaucoup, j'en ai fait qu'un.
Certaines en déprime compensent par l'alcool. C'est pas une bonne solution.
C'est un avantage que j'ai de pouvoir travailler là-dedans sans être attaché à cette problématique-là. Et je pense qu'il faut ne pas l'être quand on travaille là-dedans, évidemment. Puis encore une fois, mon travail, moi, je le vois plutôt par le biais du relationnel avec des gens passionnés et passionnants. Il y a bien des choses simples de la vie, bien boire, bien manger, partager des choses. Donc, on n'est vraiment pas sur une notion de plaisir alcoolisé, mais sur une notion de plaisir tout court, avec beaucoup de partage. Et quel que soit le produit, que ce soit une bonne tome de fromage ou un bon bout de pain, c'est toujours plus appréciable de le partager plutôt que de se vanter tout seul, d'avoir bien choisi son fromage ou d'avoir trouvé le producteur. Ah bon.
Nous n'allons pas dévoiler votre adresse personnelle, mais on va juste indiquer que vous avez vu sur l'hôpital. Vous êtes un témoin privilégié de tous les allées venues. Comment ça se traduit au niveau
Eh
ambiance?
bien, niveau ambiance, je vois, bon, ça, c'est à peu près proportionnel à période normale, hein, quand il n'y a pas de confinement. C'est-à-dire que je vois principalement, je vois systématiquement les ambulances, les cars de gendarmes circuler, parce que c'est vraiment un carrefour très très passant. Donc voilà, proportionnellement, ouais, ils sont toujours là. J'y vois beaucoup plus le soir avec les gyrophares, ça, c'est marrant, ça reflète sur tous les bâtiments autour. Cette espèce de flash bleu là, c'est un côté un petit peu particulier hein, d'être là et d'avoir vu sur le CHU. C'est un poil plus anxiogène que d'avoir vu sur un parc quand même. Hein. Donc, si on rajoute à ça les bruits de l'hélicoptère du CHU, bon, voilà, c'est un petit peu particulier. Après, comme tout, on s'y fait. Hein, quand les choses sont régulières, on finit par s'adapter un petit peu et au moins les entendre, à moins faire cas de ça. Voilà, puis j'ai vu également sur le skatepark qui est toujours très dynamique habituellement, et là, qui est absolument vide. Donc, c'est encore plus bizarre parce que c'est un lieu de jeu et c'est le seul endroit, même si ça peut être un peu bruyant des fois, mais ça reste le seul endroit où il y a de la vie, il y a un peu de musique, et qui est du coup assez sympathique à regarder. Parce que si on était au CHU et qu'on regardait les bâtiments d'en face, ça serait plus agréable parce que les bâtiments sont relativement jolis. Et là, moi, je suis dans le point de vue inverse, donc je vois ces grands bâtiments là, ces grandes barres grises. Et la seule activité qu'il y avait, c'était le skatepark qui ne vit plus. Donc ouais, c'est un petit peu triste.
Faut installer des miroirs sur le balcon, là, avec un petit bras télescopique.
C'est ça. Ce serait bien de refaire toute la façade du CHU en miroir de manière à nous voir de temps.
Et avec le voisinage, tout se passe bien?
Et bien, le voisinage dans ma ruelle est plutôt absent, en fait. Je ne sais même pas qui vit chez lui. Il y a deux fenêtres ouvertes à peu près en bas. Puis mon voisin le plus proche en dessous de mon immeuble que je connais, puisqu'on partage une cage d'escalier. Mais sinon, ma rue est assez déserte. Je pense que c'est une rue avec beaucoup de personnes qui, soit sont parties se confiner ailleurs, soit vivent vraiment cloîtrées. C'est un petit peu particulier. En tout cas, à 20h, à l'heure où tout le monde met sa tête à la fenêtre, je ne vois personne dans la rue. C'est un peu triste. Mais bon, j'entends d'autres dans les ruelles alentours communiquer. Donc, ça réchauffe un peu le cœur quand même.
Il ne vous est pas venu à l'idée que vos voisins étaient décédés.
Oh, c'est terrible ça comme pensée. Oh ben, il
C'est pas une pensée, c'est une question.
reste. Non, c'est pas une pensée qui m'a traversé l'esprit, non. Non, non, puis de toute façon, en y réfléchissant bien, je ne crois pas, avant le confinement, avoir vraiment vu de personnes actives à leur fenêtre. Moi, je suis tout le temps à ma fenêtre et c'est pas forcément le mode de vie de tout le monde. Enfin, à cette période-là, notamment quand il y a du soleil. Et non, je ne crois pas avoir beaucoup vu ces fenêtres s'ouvrir, donc je ne sais pas. Je pense que c'est habité, mais. Les gens sont, voilà, ils doivent être confinés dans le fond de leur lit ou peut-être que ce sont des fenêtres qui donnent, je sais pas, dans la salle de bain, qui s'ouvrent rarement. J'en sais rien. En tout cas, c'est un peu bizarre à regarder, quoi. Ça fait vraiment mort dans cette rue. Ah bah là, le fait qu'il n'y ait pas de circulation, qu'il n'y ait pas de gens à pied dans la rue, ça rajoute un peu au poids. Enfin, après, j'apprécie énormément le silence de la ville, hein. Soyons très clairs. J'habite devant un carrefour hyper passant. Là, depuis d'entendre les voitures continuellement, c'est fabuleux. En revanche, le fait qu'il n'y ait pas du tout de vie, enfin moi, quand je sors la tête, il faut que je regarde à gauche pour voir le CHU et à droite, un bloc d'immeuble, donc voilà. Eh bien, les gens que je vois passer, ça me fait du bien, même si je les vois de très loin. Finalement, c'est le seul petit les instants de vie qui nous rassurent sur le fait que les gens ne sont pas morts tous chez eux, quoi, justement. Heureusement, il y a des gens qui sortent un petit peu et voir des visages, ça fait du bien. Et donc oui, c'est un petit peu particulier de toute façon là. Je pense qu'on a tous la capacité d'observer par une fenêtre ce qui se passe dans la rue, dans nos rues, quelle que soit. se rendre compte que c'est très différent, finalement, ce silence, ces oiseaux qui reprennent un petit peu le dessus, qui ont plus trop peur d'ailleurs de sortir à découvert. Donc voilà.
Qu'avez-vous prévu, si vous avez prévu quelque chose, pour le premier jour de déconfinement?
Oh, je crois qu'on va être des millions à aller chercher du soleil en terrasse pour boire un café avec des copains. Je crois que ça va être terrible, ça. Mais bon, ça se passera pas comme ça. Ils vont s'arranger, je pense, pour maîtriser la foule. Mais évidemment, le contact social est quelque chose qui me manque comme à beaucoup, je pense. Physique aussi. Le fait de pouvoir faire la bise ou de pouvoir, voilà, vraiment voir ou toucher quelqu'un sans réfléchir à chaque fois, tout le temps, à cette barrière-là. Voilà. Et puis, si on a au moins le droit de se prendre dans les bras, je pense que c'est la première chose que je ferais, de prendre mes amis dans mes bras pour les embrasser.
Les bars et les restaurants ne seront pas ouverts à la date prévue du déconfinement, si ça ne change pas. Et puis les câlinous, il faudra réapprendre.
Oui, je pense que ça va pas venir tout de suite, mais bon, déjà revoir du monde, ça sera un bon début. Mais oui, mais évidemment que ça va pas forcément le même jour être totalement autorisé. Ça paraît assez logique en même temps. Hein. Mais bon, voilà, on va voir.
Merci à Soigny, cofondatrice et directrice de la société Grain de Raison, pour sa libre participation à ce 26e numéro de Confinez-vous à nous.